Bonjour ou rebonjour à tous et toutes. Donc, pour celles et ceux qui sont arrivés cet après-midi, et en particulier, petite dédicace pour celles et ceux qui viennent de Châtellerault. Bienvenue à vous. C'est notre deuxième journée art et transmission. Vous avez raté la première qui proposait des ateliers de pratique artistique, mais qui commençait avec le spectacle proposé par Mathieu Gary, la compagnie La Volte Cirque, spectacle qui a permis d'entrer dans un état de réflexion qui a fait l'unanimité totale. Alors il faut se méfier quand il y a un peu trop de consensus, c'est souvent suspect, mais pour de bon, ce n'est pas tant à Mathieu Gary que je vais rendre hommage ici, mais à ma collègue Alice Poquet qui a fait un repérage magnifique pour la cohésion de ce qu'on voulait lancer. Donc en fait, il s'agissait juste de pouvoir, à partir de son spectacle, essayer de réfléchir à ce qui pouvait nous rassembler autour de ces enjeux-là, les questions de démarche réflexive en particulier. Mais pour ne pas prendre trop de temps, je reprendrai juste la formulation de Claire Génie, que je vais beaucoup citer désormais, qui était un bon résumé. C'était comment, finalement, là où avec le saut périlleux, on pouvait craindre d'avoir un corps en puissance, du spectaculaire, en réalité, vous avez permis de nous ramener à du sensible. Et c'était vraiment quelque chose à quoi on tenait, avec en plus un lien tout au long du spectacle construit entre l'intime et le politique. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Le nous n'est pas ni de majesté ni de modestie, mais vraiment un nous collectif lié aux échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup de participants. Voilà, donc bon après-midi. Alors je pense que vous êtes plusieurs à partir au moment de la pause. On reconfigurera peut-être notre dernière table ronde, on verra comment ça se passe, mais de toute façon, on a une captation. Je remercie toujours les collègues présentes pour alimenter notre ressourcerie. Bon après-midi, merci à vous.
Merci Mathieu Gary d'être là avec nous après être venu effectivement le 31 janvier. On voulait juste faire un petit sondage peut-être avant juste de commencer, de savoir qui n'avait pas vu faire un tour sur soi-même. Oui, donc quand même un peu de gens. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être du coup prendre un temps pour, parce qu'on va essayer de discuter effectivement à partir de ce spectacle. Donc Mathieu va prendre un temps pour peut-être resituer un peu le contexte et ce qui se joue pendant cette heure et quart à peu près de spectacle. Avant ça, je vais quand même te présenter un petit peu. Sybille l'a dit, tu fais partie de la compagnie la Volte Cirque, qui a été créée en 2015, c'est ça ? 2018, mais qui fait suite du coup à la création d'un spectacle qui s'appelle La Chute avec Sidney Pain, qui du coup a entraîné effectivement la création de la compagnie. Tu es évidemment acrobate, mais aussi metteur en scène. Tu fais plein de choses. Tu es œil extérieur sur des il y a un côté pluridisciplinaire aussi dans ta pratique et dans les gens que tu as côtoyés aussi avant de créer tes propres spectacles. Donc il y a quand même un univers assez large. Comme formation, tu as, alors dans le spectacle, on va le réaborder parce qu'évidemment dans la conférence, ça fait partie aussi de d'où tu pars, cette question de la découverte du cirque dans une école de cirque à Avignon. Puis après, tu es passé par Montpellier au Centre Balthazar, c'est ça, et puis ensuite au CNAC, au Centre National des Arts du Cirque à Chalon, dont tu es sorti diplômé en 2010. Voilà, ça c'est pour le parcours effectivement avant la création de la compagnie. Et donc le 31 janvier, tu es venu montrer ici une de tes dernières créations, une conférence spectacle performée, je ne sais pas comment tu veux la nommer, faire un tour sur soi-même. Et là, je te laisse peut-être présenter un peu qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui s'est passé ici sur ce plateau même le 31 janvier.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, faire un tour sur soi-même, j'ai du mal à le nommer, spectacle, conférence. En tout cas, c'est on va dire un spectacle quand même, je vais appeler ça un spectacle la plupart du temps, qui part du... Le point de départ, c'est le saut périlleux. Donc je rentre en scène et je dis, voilà, j'ai 35 ans, je m'appelle Mathieu Gary, et je fais des sauts périlleux depuis à peu près 25 ans. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment de ma vie où je me pose la question de pourquoi continuer à en faire. En fait, c'est quoi ce truc que je fais sans me poser des questions depuis à peu près 20 ans, 25 ans. C'est quoi mon histoire? Comment j'en suis arrivé là? Ça aurait pu commencer comme ça. Comment j'en suis arrivé là? Et donc, à partir de là, pendant une heure et quart, je vais me poser la question, tout un tas de questions qui vont m'emmener à d'autres questions. Et ça commence de qu'est-ce qu'un saut périlleux? Donc je vais m'appuyer sur des travaux. Il y a beaucoup de références, c'est pour ça qu'on peut parler de conférences. C'est que je suis allé chercher vachement dans les bouquins. C'est une pièce que j'ai écrite pendant le confinement, comme pas mal de pièces qui ressemblent à ça, c'est-à-dire très écrites. Parce que j'avais du temps, j'avais mes bouquins, j'avais mon petit appartement dans lequel je pouvais pas faire d'acrobatie incroyable. Donc j'ai eu le temps pour écrire ça. Et ça fait suite quand même, ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'il fait suite à un spectacle que j'avais fait avec Alice Zénitaire 2 ans avant la création, qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire », dans lequel Alice m'avait invité pour écrire avec elle un seul en scène qu'elle donne sur la littérature. Ce qui, a priori, moi, n'est pas mon sujet, mais ça, on pourra peut-être en parler plus tard, parce que là, je me lance dans un truc. Mais bref, une forme assez similaire qui ressemblerait à un spectacle où on vient parler de ce qu'est notre pratique, et où on a pris le temps, en tout cas, d'écrire notre pratique artistique. Voilà. Donc ça, c'est faire un tour sur soi-même. Donc voilà, de questions en questions, il y a tout un tas de questions que pose la pratique du saut périlleux auxquelles je réponds dans ce spectacle-là.
Et peut-être juste pour parler du dispositif, donc effectivement, il y a quelque chose d'assez nu aussi dans la scénographie. Il y a un écran qui se transforme en praticable, un tapis, ouais. Voilà, et puis il y a des choses projetées, des images, des textes, des extraits de livres, des vidéos... sur lesquelles tu zones aussi le soir tard dans la chambre. Voilà. Donc il y a une multitude en fait de sources possibles. Les matériaux sont très variés aussi dans ce que tu proposes. Et effectivement, tu t'adresses de manière extrêmement directe, simple au public face à toi, à la fois en disant je toujours, mais en apportant effectivement tes lectures, tes pensées, ton histoire. Ça entremêle évidemment tous ces formats-là. Je voulais peut-être revenir sur cette question. Donc, tu disais qu'effectivement, la question du confinement, peut-être, t'avait contraint à écrire, ou en tout cas à se dire que tu te posais autrement dans la projection d'une création et dans l'écriture aussi, peut-être. Est-ce que cette façon de faire conférence, est-ce que c'est quelque chose est-ce que tu avais, il y avait effectivement ce projet avec Alice Zénitaire, mais est-ce que c'était déjà des formes qui t'intéressaient? Tu prends la parole dans d'autres pièces de cirque, on sait peut-être que c'est quelque chose de ton travail aussi, c'est que tu aimes mettre en question ce que tu es en train de traverser dans ta création. Donc vous êtes des circassiens qui prenaient la parole pendant qu'ils font les acrobaties. Et est-ce que là, c'était une autre manière de mettre en jeu cette parole, peut-être plus écrite, quelque chose de très écrit, de plus long aussi? Et qui se relie à une histoire effectivement de la conférence un peu performée qui est pratiquée depuis assez longtemps aussi maintenant, et qui est ce sont des formes aussi de plus en plus visibles sur les scènes. Tu disais que post-confinement il y en avait eu plein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a plein d'artistes qui prennent la parole au jeu pour présenter un domaine, une question qui les préoccupe et le relier à leur histoire personnelle.
Oui, c'est vrai que ces formes là elles existent. Après, dans le cirque, au moment où j'ai écrit ce spectacle-conférence, je sentais qu'il y avait une vraie absence de ce genre de forme. Donc moi, j'ai aucune prétention formelle d'inventer ou de renouveler quoi que ce soit. Ça ne m'occupe jamais dans l'écriture des pièces. Quelque part, je m'en fous. Je n'ai pas d'ego avec ça, on va dire. Et oui, ces spectacles-conférences, c'est une forme qui existe dans différents domaines. J'en avais vu plein. Et je me suis dit, dans le cirque, il y a un peu l'absence de... Alors que quand même, le cirque, c'est... Il s'y passe plein de choses dans la pratique de l'acrobatie. et quand même, ça me semblait manquer quelque part des acrobates qui prennent la parole, qui prennent le temps d'écrire. Quand même, dans le cirque, on est fâché avec la parole, très clairement, historiquement, depuis le début. Pour la petite histoire, en fait, il y a des interdictions officielles dans l'histoire du cirque de prise de parole. Et ça, ça date de la fin du XVIIIe siècle, donc au tout début du cirque moderne, parce qu'il faisait trop concurrence au théâtre.
Et les interdictions, elles sont émises par qui ?
Elles sont émises par l'État français, clairement. Donc on a sectorisé les arts et on a dit le cirque, ok, parce que le cirque avait un grand succès populaire. Et donc, il y a eu du coup le théâtre. J'accuse le théâtre là maintenant, mais en tout cas, le théâtre a dit mais il y a une concurrence déloyale avec leurs chevaux et leurs sauts sur les chevaux et les machins, ils nous font concurrence. Et l'État a tranché en disant ok, mais le cirque, vous ne parlerez pas. Il y a plusieurs allers-retours dans l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps qui vient de l'université d'ailleurs, où on dit comment parle Monsieur Loyal ? Je vous partage ça parce que je trouvais ça génial. Et en fait, Monsieur Loyal, même dans le cirque dit moderne, donc années 60, il n'y a pas si longtemps, Monsieur Loyal, il ne fait que décrire ce qui va se passer. Mais il n'écrit pas des textes, des dialogues, où il ne parle pas de la vie. On a autorisé à ce moment-là le cirque à parler, à condition qu'il décrive. Attention, vous allez voir des trucs géniaux, des gens qui viennent. Bref, voilà. En tout cas, le cirque a une histoire compliquée avec la parole. Et moi, j'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont permis ça, de prendre la parole, de savoir comment me placer, de savoir, je sais pas, beaucoup de techniques théâtrales. Si vous me demandez de jouer du Beckett, je vais jouer très très mal. Par contre, écrire mes textes, les dire et parler à la première personne, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on m'a encouragé à faire, quoi. Donc cette forme, elle vient de là assez naturellement. Elle vient de 3-4 spectacles qu'il y a avant. Je prends pas la parole comme ça pour la première fois, là, d'en faire un tour. Je sais comment me placer au moment où je l'écris. Y a un ton que je connaissais déjà. C'est-à-dire faire des références, passer de l'expérience personnelle, du vécu, changer un petit peu de registre. Comme ça, c'est quelque chose que je pratique dans tous les spectacles que je fais.
Peut-être là aussi, dans la particularité de ce format-là, il y a aussi cette question de l'adresse donc au public, d'être vraiment dans... Voilà, je dispense aussi voilà, une conférence, quelque part. Et peut-être cet aspect pédagogique, ou en tout cas, on est ici dans le cadre universitaire, tu joues cette pièce dans des cadres universitaires, pas que, mais quand même dans ces endroits du savoir et de la transmission du savoir. Est-ce que toi, il y avait cette volonté d'aller chercher les publics sur un côté, apprendre, que nous, on apprenne quelque chose sur l'histoire du cirque, sur comment aujourd'hui les circassiens pensent leur pratique et leur histoire. Voilà. Est-ce qu'il y avait cette envie de pédagogie, d'adresse directe et que les gens ressortent en ayant appris quelque chose sur ton art ?
Ben, oui, clairement. Très clairement. Après tous les spectacles que je fais, bon, celui-là c'est très clair la forme, je suis devant vous, je vous dis je vais vous apprendre quelque chose, donc là l'intention pédagogique elle n'est pas dissimulée quelque part. Sur d'autres spectacles, en fait je vais dire on beaucoup parce que j'écris en binôme avec Sidney Pain, et que du coup on met aussi en scène beaucoup de dialogues, on a des spectacles qui sont plutôt dans des formats plus classiques, comme vous pourriez connaître, qu'on tourne en saison, et que du coup, même quand on écrit ces spectacles-là, il y a une intention pédagogique, c'est-à-dire qu'à la base, on va se poser la question de pourquoi ça devrait exister, ce qu'on va faire. C'est pas seulement un départ en se disant « Tiens, on va faire un truc chouette, et puis ça tombe bien, on est chouette, et du coup, ça va sûrement être chouette. » On se dit, au début, on se dit « Mais pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça ? Qui sont les gens ?» qui sont les gens ? Quels sont les... Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important que les gens viennent nous écouter ? Et que ça, pour moi, ça pose des questions qui sont de l'ordre de la pédagogie, pas forcément qu'est-ce que je vais vous apprendre, mais qu'est-ce qu'on va partager le temps de la représentation. Et je me souviens, moi, quand j'ai fait l'école de cirque à Chalon, à la fin des 3 ans, il y a un metteur en scène qui vient mettre en scène un spectacle. Et je me souviens qu'il y a une petite tradition quand on fait des spectacles de cirque, c'est qu'à la fin, au salut, on fait des sauts périlleux. Et il avait vu ça, c'était un metteur en scène hongrois de théâtre qui était dur, dur. Et il a vu ça et il nous a mis passé un savon, il nous a engueulé le lendemain en disant mais vous avez rien compris quoi. Les saluts, c'est le moment où on vient juste dire merci aux gens de m'avoir écouté quoi. C'est pas le moment où on vient dire super, regardez, c'est vrai que j'étais super. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui m'est resté dans. C'est quand même un temps que vous vous prenez, mais que moi aussi je vous prends. Et que du coup, je dois quand même me poser les bonnes questions avant d'arriver sur scène, avant d'écrire. De dire comment est-ce qu'on va mettre à profit ce temps-là, ou en quoi je pense que c'est important. Et en ça, je pense que oui, c'est pour moi, c'est une attitude quasi professorale de se poser ces questions-là.
Est-ce qu'il y a l'impression aussi, en faisant ça, de légitimer aussi un art qui, effectivement, comme tu le disais, n'a pas eu la parole pendant longtemps, mais aussi peut-être qu'on ne pense pas comme un art qui se pense, qui a une histoire aussi, pas qu'en France, enfin, qui a une histoire mondiale. Est-ce que c'est aussi une façon de légitimer un art, de le faire rentrer aussi ici, à l'université, de le partager aussi de cette manière-là, de montrer qu'il y a... tu commences par un texte du XVIe siècle, donc tu l'ancres évidemment dans un processus historique lointain, dans un livre qui existait au XVIe.
Ouais, je suis embêté avec ça. Parce que oui, en fait, c'est une histoire de légitimer le cirque, aussi de me légitimer moi, de moi à moi, très clairement. Et en même temps, je suis embêté avec ça, parce que je me dis, le cirque, il n'a pas besoin de ça non plus. Je pense que la danse se pose les mêmes questions, que le mouvement appartient au mouvement et que c'est pas en pensant le mouvement qu'on va le rendre légitime, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui bref, je suis embêté avec ça un petit peu, de me dire oui, je pense que c'est quand même une manière de légitimité, et en même temps j'aime aussi le cirque de là où il vient quoi, c'est-à-dire que c'est un art de l'action, et du coup, voilà, je suis en conflit intérieur avec cette question-là.
Et tu parles pas mal, effectivement, de ces conflits aussi intérieurs dans cette conférence, en tout cas des dualités. Tu parles effectivement là du salto au salut, qui pourrait paraître comme un geste un peu de puissance, ou en tout cas de vanité physique, je sais pas, enfin de montrer qu'on sait faire. Et tu questionnes beaucoup ça dans cette pièce, cette question de la place de ce saut périlleux, de ce salto, de cette figure un peu virtuose, où tu dis il faut rater, il faut la faire 200 fois avant de la produire correctement, etc. Et de ce qu'elle véhicule en termes de puissance, et de ce que toi tu y vois, et pourquoi c'est par là que tu es arrivé au cirque aussi. Et au contraire, est-ce que ça peut pas être un endroit de l'imaginaire, de l'anarchie, enfin, tu parles d'anarchie, mais d'être hors norme, en fait, à côté de la norme, et pas dans la norme de surpuissance. Donc, tu es en permanence aussi à dealer avec cette dualité-là dans ce.
Oui, je pense que les acrobates, ils sont vraiment traversés par ce. En tout cas, certains acrobates, parce que certains aussi l'assument complètement. Et je pense qu'on est pas mal à être embêtés avec cet acte de performance pure physique qui, quand même, si on pousse l'idée. Nous embête quoi, de se dire ah bah oui, il y a la recherche du toujours plus. En tout cas, je parle des acrobates de gauche. On est embêté avec la recherche de la performance, avec le toujours plus, avec le corps puissant, machin. Et du coup, on cherche de quelle puissance on parle. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de philo, je pense que Nietzsche, c'est un très bon appui pour nous, parce qu'il répond à cette question-là. En disant que la recherche de puissance, c'est pas celle de la recherche du pouvoir, mais plutôt d'un empuissantement du désir, un empuissantement qui donne un pouvoir d'action. Et j'ai l'impression que lui, heureusement qu'il est un peu là des fois pour nous rassurer. Parce que oui, on est embêté et qu'on est aussi très vite associé. Vous voyez bien, moi je suis en jogging, t-shirt, c'est pas très.
Dans la conférence.
Mais je tire ce trait-là volontairement. Pour ne pas ressembler à un acrobate en juste au corps. Parce que voilà, si on repart encore dans l'histoire, il y a toute une époque russe. Et donc l'histoire du cirque, la forme du cirque, elle est aussi formée par une époque communiste, clairement, qui a besoin de ces acrobates-là pour aussi passer son idéologie. Et que finalement, on en voit encore beaucoup aujourd'hui. On hérite beaucoup, en tout cas, de ce cirque-là. Donc voilà. On est un peu embêté, quoi. Donc on cherche un peu des manières de dire, attendez, non, on est vraiment cool quand même. Et ce qu'on montre, c'est pas que fascisant. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de jouer des spectacles de cirque et qu'à la fin, on me dit, mais tout ce que vous faites, mais c'est génial, mais moi, je pourrais jamais le faire. Et je me dis, bah oui, mais là, j'ai raté complètement mon truc, quoi. Ça veut dire que, au contraire, moi, j'aimerais que ça invite les corps à bouger, à se mettre en mouvement. Et ces retours-là, ils me rendent triste un peu.
Il y a aussi, pour évoquer ça, en fait, tu te dis, pour sortir de cette image fascisante, surpuissante, qui peut-être tétanise le public, en tout cas l'impressionne beaucoup, tu dis que tu te souviens aussi de ce qui se passait sur le tapis de l'école de cirque à Avignon quand tu étais petit, comment tu as découvert le cirque, et notamment de la question du raté, de le nombre de fois où vous ratez, de l'attention collective à se protéger, donc à la parade, ce qu'on appelle la parade, mais c'est en gymnastique aussi, on a ça, enfin tout ce qui est acrobatie, où on se part les uns les autres et où on est attentif à ses premiers essais, à ses premières fois, et cette question aussi du collectif, parce qu'effectivement, dans l'acrobate, on pourrait avoir une figure d'une personne qui, tout à coup, a cette espèce de faculté, de virtuosité. Et là, tu replaces, du coup, pour te souvenir d'où tu viens, tu replaces aussi cette question du collectif, du sentiment de joie que tu éprouves quand, effectivement, tous les autres te regardent faire ton premier saut périlleux et sont là pour te parer.
Ouais. Ouais, c'est un peu là que m'a fait retourner l'écriture de cette pièce, parce qu'au début, je comptais pas du tout raconter ma vie dans ce spectacle-là. C'était pas du tout l'idée. Et au final, je me suis dit, qu'est-ce qu'un bon saut périlleux, quoi. Je voulais finir par le bon saut périlleux, quoi. Peut-être qu'on a fait le tour de la question. Et du coup, ça m'a fait revenir dans cette école de cirque à Champfleury, qui est un endroit hyper important de ma vie.
Qui existe toujours ?
Qui n'existe plus, non. Non, c'est une maison de quartier. C'était un endroit très particulier parce que c'était Hassen, qui était Hassen Ourag, qui était un prof qui était. Franchement, il n'était pas vraiment très apte à nous apprendre à faire du cirque. il venait plutôt de la capoeira, du hip-hop. Et je ne sais pas comment il était devenu professeur de cirque. Mais en tout cas, il a réussi à nous transmettre comme ça l'idée du groupe, de cette énergie-là. Je me souviens d'un espèce de tourbillon, on sortait dans la rue, on allait faire des spectacles. D'ailleurs, on était 12, je crois, et on est peut-être 8 à être acrobate professionnel, donc c'est quand même pas rien. Et les deux autres, ils sont cinéastes et metteurs en scène, quoi. Et c'est quand même une histoire assez folle. On était on baignait aussi dans le Festival d'Avignon, donc c'est aussi pas rien. Et c'était une maison de quartier qui était avec une mixité. Voilà, peut-être sûrement que je l'idéalise un petit peu, mais quand même, c'était un endroit que je trouve auquel je pense avec beaucoup de nostalgie, mais je pense qui est clairement l'élan que je continue à avoir encore des années plus tard, de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, quoi. Donc voilà, ouais, faire un tour sur soi-même, c'était un peu l'idée de s'élancer avec une question, et puis à la fin je me rends compte que je reviens de là où je suis parti.
Peut-être pour revenir à la question de l'écriture, tu citais du coup Alice Zénitaire, peut-être tu peux resituer un peu qui est Alice Zénitaire, parce que certains peut-être la connaissent, mais peut-être pas tout le monde, avec qui donc tu étais œil extérieur sur ça, son spectacle conférence, et qui là est venu t'accompagner sur celui-là, et peut-être comprendre un peu sa place, comment vous avez travaillé l'un avec l'autre, qu'est-ce qui s'est joué, qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi dans ses transmissions de pratique, puisqu'elle est dans une pratique plutôt d'écriture, elle.
Ouais. Alors Alice Zénitaire, c'est une autrice de ma génération qu'on pourrait dire célèbre aujourd'hui en France, qui a écrit L'art de perdre, qui a été récompensé de nombreux prix sur l'histoire de sa famille, Arki. Et donc, Alice, c'est une amie. Moi, je travaille toujours avec des amis. J'invite très peu de gens, on ne fait jamais d'audition. Je travaille qu'avec des gens dont, affectivement, je me sens très proche. Et Alice, donc, c'est une amie depuis 15 ans. Et je pense qu'on a un espèce de rapport inversé de un peu d'admiration tous les deux, dans le sens où elle est vraiment admirative des acrobates, mais elle se sent ni légitime, ni voilà, pour en faire quelque part. Moi, c'est pareil avec la littérature. où j'ai clairement une admiration pour les gens qui écrivent, la littérature, enfin tout ça. Et que du coup, on se nourrit un peu à cet endroit-là. Et donc, on a écrit plusieurs pièces, mais qui n'ont jamais été vouées à la tournée des années avant, dans différents festivals. Et puis là, donc, elle m'a invité sur « Je suis une fille sans histoire » et comment on a travaillé. En gros, elle est arrivée avec 3 textes en disant « ça, je pense que c'est important que les gens entendent un texte d'Umberto Eco, un texte de Frédéric Lordon, qui est un sociologue, philosophe, économiste, et Ursula Le Guin, qui est une autrice de science-fiction. » Elle arrivait avec ces 3 trucs-là, et moi, à partir de là, j'ai fait un peu comme tu fais là, c'est-à-dire je lui ai posé des questions. C'est quoi le lien? Je comprends pas tout. Frédéric Lordon, j'ai jamais aimé, je trouve ça trop compliqué, mais si t'arrives à l'expliquer, ce serait trop bien. Et du coup, on se met à l'écriture. Un peu, c'est comme ça, je dis, bah, explique-le-moi mieux. Et moi, je fais un peu la place du spectateur qui découvrirait et qui n'est pas chargé de... Elle est normalienne, donc... Elle a un bagage, elle a des grosses valises, quoi, culturelles, on va dire. Et du coup, moi, je ne les partage pas toujours, ces références, quand elle me dit, bah oui, nanana, moi, je n'ai pas lu tout Zola, j'ai pas tout ça. Et donc, j'arrêtais pas de lui dire, bah, donne des références qui parlent peut-être plus, en tout cas, à la majorité. Donc, comment on travaille, c'est qu'on s'accompagne pour que tout le monde puisse comprendre nos pièces. Donc, ça, c'est le premier enjeu, je pense. Et ensuite, après, c'est de la mise en scène. Donc, une fois que le texte, il est là, on a fait pareil pour faire un tour, hein, du coup, à l'inverse. Je suis arrivé avec un corpus. Elle m'a dit, si on tissait ça comme ça, je suis allé à l'écriture pendant 1 mois, 2 mois. Et une fois que j'avais le gros du texte, on a plutôt fonctionné par coupe. Donc, couper des morceaux de texte. Et puis, clairement, il y a des trucs qu'on écrit qui sont géniaux à l'écrit et on arrive sur scène et c'est hyper chiant, quoi. Et là, il faut trouver les moyens de les faire jouer. Par exemple, pour la pièce que vous avez vue, faire un tour, la carte mentale, par exemple. Il y a un moment, je dis, j'ai lu des travaux d'un neurologue qui nous raconte ce qui se passe dans le cerveau quand on fait des sauts périlleux. Si je vous raconte ça comme ça, franchement, c'est un peu ennuyeux. Par contre, avec cette carte mentale, on est avec Alice, puis d'un coup, elle me dit, ah ouais, tu pourrais montrer ce qu'il y a dans ton cerveau. Puis après, de fil en aiguille, ça nous fait marrer, et là on se dit, ah bah c'est bon alors. Et les choix, on les fait comme ça, plutôt on a un texte sérieux, puis après on explose un peu tout quand on arrive sur scène, pour que ça devienne des pièces qui soient aussi, c'est hyper important, joyeuses, quoi. Que tout ce savoir-là, il reste ludique. Donc voilà, c'est un espèce d'aller-retour entre la table et le plateau. Et les choses, on les arrête quand on sent qu'il y a un truc qui se passe. Je ne saurais pas comment vous dire autrement. Soit que ça nous fait mourir de rire. Soit qu'on se dit, ben, là, c'est le bon moment, au bon endroit. Après, ces pièces-là, elles se travaillent en les jouant, quoi. Si vous aviez vu la première, c'est pas du tout la même chose, quoi. Là, j'en suis à 30, 40 représentations. Je commence à être très à l'aise. Donc voilà, Mais c'est des pièces qui se jouent, jouent. Ça s'écrit beaucoup en jouant. C'est pour ça que je disais, il y a la troisième couche qui est celle du plateau. Et ça, il faut pratiquer.
Juste pour revenir avec le travail avec Alice, j'ai vu aussi que vous alliez donner tous les deux un workshop au Centre National des Arts du Cirque, dans l'école dont tu es issue. Autour de l'écriture. Je voulais savoir un peu si vous aviez déjà mené ce genre de transmission, d'atelier, et qu'est-ce que vous alliez y faire, du coup, voilà, ça m'intéressait.
Eh ben, on est en train de... J'étais hier en réunion avec Alice, donc on est en train de le construire, c'est une grosse semaine autour des enjeux de l'écriture dans les pratiques du mouvement. Je pense que c'est quelque chose qu'on commence à conscientiser ou dont on commence à avoir l'expérience, et du coup, là, on a été invités, on est aussi reconnus pour ça, quelque part. Aujourd'hui, on est des circassiens qui écrivent dans le milieu, on va dire, du cirque. Qui prennent la parole, donc on nous invite pour ça, et on va faire des allers-retours, exactement ce que je viens de vous raconter avant. On va inviter les étudiants, les étudiantes à... La première question, c'est qu'est-ce qu'un sujet? On va commencer là-dessus, comment on trouve un sujet d'écriture, quoi? Comment on travaille cette question-là? Par exemple, pour moi, le saut périlleux, c'est un sujet, c'est aussi un faux sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui me permet de déployer une pièce derrière. Et du coup, on va commencer par travailler ça avec eux. Donc ça, c'est les matins. Et les après-midi, ils sont sur leurs agrès, sur leurs pratiques. Donc dans une école de cirque, en fait, souvent les matins, on a des cours, on va dire, à la table. Et l'après-midi, on a des cours de pratique, chacun, chacune sur sa spécialité. Moi, par exemple, je faisais du machinois. Donc c'était un grand poteau de 6 mètres. De l'acrobatie au sol, mais tout le monde a ses spécialités. Il y en a qui font du trapèze, il y en a qui font des portées. Donc l'après-midi, tout le monde pratique ces trucs-là. Et donc nous, le matin, on va écrire sur du vécu, par des exercices d'écriture, on va dire. On va donner aussi un corpus de texte pour dire « Regardez ce qui est écrit, regardez comme c'est passionnant. » Parce que des fois, quand on est à l'école de cirque, on n'a pas toutes ces références-là. Donc nous aussi, on prend ce rôle-là. Et donc l'après-midi, ils vont sur leurs agrès avec l'idée de pouvoir essayer de raconter ce qu'ils font. Qu'est-ce que c'est que le vécu du mouvement? Qu'est-ce que c'est l'expérience du mouvement? La sensation? À quoi ça nous fait penser? Comment on a commencé? Pourquoi? Donc voilà, essayer de convoquer plein de choses à plein d'endroits, de plein de points de vue différents. Donc c'est un peu ça qu'on va partager avec eux pendant une semaine.
Peut-être juste pour revenir sur ce parcours que tu as eu, toi, au Centre national des arts du cirque, au CNAC, là tu y reviens. Est-ce qu'effectivement, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait, on évoquait, parce qu'à midi, on évoquait cette question des apports pluridisciplinaires dans les formations artistiques. Donc là, c'est une école, l'école de cirque en France. Tu me disais qu'il y avait effectivement plein d'apports d'autres disciplines artistiques dans le parcours de formation. Et je voulais savoir si effectivement ce rapport à l'écriture était présent peut-être quand toi tu y étais, ou est-ce que là c'est peut-être un peu nouveau encore cet enjeu-là de l'écrit, voilà. Et quel type de pratique toi t'ont ouvert peut-être par rapport à ta pratique de ton art qui est celui du cirque?
Oui, on a eu des cours à l'école quand même, je me souviens d'un metteur en scène qui écrivait des pièces pour enfants. Mais dans la pratique de l'écriture, j'ai peu de souvenirs, quand même, comme j'ai commencé par ça, mais je pense que c'est assez vrai quand même. Le cirque et l'écriture, le cirque est très fâché avec l'école, avec ce que représente l'école. Donc il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes qui, dès qu'on les met à table, ils pètent un plomb, ce qui n'était pas forcément mon cas, mais clairement il y a beaucoup d'hyperactifs quelque part dans une école de cirque, et dès qu'on se met à table pour écrire, c'est les gens n'étaient pas venus pour ça, quoi. Donc il y a un peu ce rapport là qui est un peu complexe. Nous, on va essayer avec Alice justement de le rendre ludique, de dire mais attendez, mais nous aussi on est hyperactifs, mais il y a quand même ça qui est génial dans le fait d'écriture, dans l'écriture, dans le fait de pouvoir s'exprimer d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas trop à quel point d'autres le font ou pas. Je suis très peu, je ne sais pas, j'y remets les pieds 15 ans plus tard quasiment. Donc,
tu n'étais pas intervenu depuis ?
Non.
C'est la première fois que tu y reviens.
Ouais. Après, on est souvent amené à donner des cours quand même. Là c'est à Chalon, mais j'ai enseigné à Fratellini, qui est une autre école supérieure à Paris. Et puis on donne régulièrement des workshops, mais là c'est plutôt autour du travail de la compagnie. Donc là c'est 2 jours avec des gens qui se sont inscrits volontairement et qui viennent des semi-pro, on va dire, autour un peu de nos techniques d'écriture, on va dire, de spectacle.
Peut-être effectivement, avant d'élargir autour de ce que vous faites au sein de la compagnie sur ces questions aussi de création et de transmission, on disait qu'on aimerait bien ouvrir. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ont vu la pièce, ou de personnes qui sont présentes, de Mathieu le 31, et de savoir effectivement, voilà, je sais que donc ce que disait Sybille, que ça a généré en tout cas des discussions entre vous, ça a généré voilà une espèce de sentiment d'avoir été assez content de voir cette pièce. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait des gens qui voulaient réagir, juste apporter un peu leur ressenti, ou de poser des questions à Mathieu. Voilà, on prenne ce temps maintenant et pas forcément tout à la fin. On va faire circuler aussi des micros pour qu'on nous entende sur la retransmission.
Du coup, bonjour et merci pour ton spectacle la dernière fois qui, on l'avait dit, à la fin de la journée, ça nous a vraiment transportée pendant toute la journée dans nos ateliers. Il y a eu un, je sais pas, t'as lancé un espèce de fil conducteur sur toute la journée. Il y a une question qui m'est venue tout à l'heure parce que tu disais que dans ce spectacle-là, tu annonces un peu tes intentions pédagogiques où tu vas dire voilà, je vais vous présenter ça, je vais vous parler de ça. Est-ce que dans tes autres spectacles, si tu n'annonçais pas cette intention-là, est-ce que tu as senti une différence de compréhension ou d'attention de la part du public ? Est-ce que ça change quelque chose dans l'énergie ou dans la réception du message que tu as envie de faire passer ?
C'est super fort d'un coup, non ? Je sais pas. Oui, alors la différence, c'est que les autres spectacles... En fait, ça va dépendre du contexte dans lequel je joue. C'est vrai que quand je joue en saison dans un théâtre, les gens s'attendent à voir une forme artistique. Donc, quelque part, l'intention pédagogique, ils n'y pensent même pas. J'ai l'impression que dans la projection des spectateurs et des spectatrices qui viennent nous voir à ce moment-là, il n'y a pas d'attente à l'endroit de la pédagogie ou de la... Et du coup, alors je sais pas trop comment répondre à ça. J'ai l'impression que ça dépend du contexte, quand même. Les gens s'attendent à voir des spectacles de cirque. En fait, voilà, c'est annoncé cirque dans une programmation de théâtre. Les gens s'attendent à voir ce qu'ils imaginent du cirque, je sais pas quoi. Et ils sont souvent assez surpris d'y découvrir un fond, justement. En tout cas, nous, c'est des retours qu'on a à chaque spectacle, vraiment à chaque fois, de dire mais c'était bien. Et on a appris des trucs. Et ils sont surpris eux-mêmes d'avoir que le cirque ait pu apprendre des trucs tellement ils n'avaient pas projeté que le cirque avait des choses à apprendre quelque part. Ou que, non pas qu'ils avaient une mauvaise image du cirque, mais je pense que ça n'occupe pas la vie des gens comme ça occupe ma vie, le cirque. Ils ne s'attendaient à rien, mais du coup, je peux remarquer que souvent les gens me renvoient qu'ils sont surpris d'avoir... ils me répondent « Ah oui, mais c'est intelligent hein. !» J'ai souvent ce genre de retour, mais comme ce que j'entends plus, c'est l'intelligence en soi, ça veut rien dire, mais j'ai appris des trucs où je pensais pas que le cirque pouvait porter comme ce type de savoir, on va dire. Donc le truc il se joue plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que là j'arrive, je dis je vais vous donner un cours, et vous êtes plutôt surpris de voir que en fait je me roule par terre et je sais pas quoi. Là, à l'inverse, les gens ils s'attendent plutôt à me voir rouler par terre et ils sont surpris de nous entendre philosopher, on va dire. Donc voilà, ça dépend du contexte et du milieu, quoi.
Est-ce que dans le contexte universitaire amène justement cette présentation, cette introduction-là, de dire oui, je fais du cirque, on revient encore à la légitimité peut-être, mais oui, je vais à l'université, je viens vous présenter quand même quelque chose où vous allez apprendre. C'est pas que cirque avec des gros guillemets.
C'est vrai que là, je commence à avoir fait une petite tournée des maisons de l'université à Nantes, à Rouen, ici, à La Roche-sur-Yon. Et c'est vrai que je m'y sens assez bien dans ce genre de contexte. En tout cas, je trouve que cette pièce-là, pour moi, elle est très confortable à jouer parce que j'ai la coolitude maximale dans l'a priori. C'est un acrobate qui vient donner une conférence, donc c'est quand même un bon intitulé, j'ai l'impression. Et ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une vraie écoute quoi, de votre part, qui êtes quand même à l'université. Et du coup, je sens que c'est un peu gagnant-gagnant dans le sens où... moi j'ai la sensation réellement d'être écouté dans le sens où, parce que vous êtes aussi vous avez peu d'attentes quand je joue dans les saisons des théâtres les gens ils viennent le mardi soir à 20h30 des fois ils viennent avec des enfants ils voient bonjour je vais vous parler de 1h15 du saut périlleux ils disent non mais c'est pas du tout ça que j'étais venu voir donc moi je m'y sens bien ici parce que c'est aussi un endroit du savoir, c'est un endroit de la connaissance de la jeunesse aussi clairement de la jeunesse, dans l'envie d'apprendre, je parle plus de ça que vos âges réels. Mais du coup, je trouve que c'est un bon endroit, quoi. Et qu'en plus de ça, on peut parler après et tout, c'est super.
Oui, moi j'avais une question. Est-ce qu'on gagnerait du coup à faire un petit peu plus la passerelle entre le côté corporel et le côté du savoir, justement, qui est un peu plus dans la tête ? Est-ce qu'on le fait assez à l'université ? Parce que j'ai l'impression que vous réfléchissez vachement là-dessus.
Ben non, clairement, vous ne le faites pas assez, c'est sûr. oui, là, cette pièce-là, oui, je pense qu'on gagnerait toujours à considérer plus le corps et le mouvement, quoi. Clairement, on vit quand même assis, quoi. Je ne sais pas vous, mais moi, je constate que je vis dans un monde de gens qui sont assis. Et que, du coup, je me dis, oui, on y gagnerait toujours plus à être en mouvement, quoi. Et clairement, cette pièce-là, elle est très volontariste là-dessus. Je ne sais pas combien de fois je dis le mot mouvement, je dis le mot corps, que j'associe à libération de l'imaginaire, que j'associe à une espèce de joie. Et s'il y a une intention dans cette pièce, c'est de nommer le corps et le mouvement le plus de fois possible, pour que je trouve que c'est absent, quelque part. J'ai l'impression de vivre, peut-être je me trompe et que je vis dans une espèce de délire comme ça, mais j'ai quand même l'impression que le corps est un espèce d'absent du monde dans lequel on vit, quoi. Et de plus en plus, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais avec le numérique, les téléphones et tout, clairement, je trouve que je suis très heureux de jouer cette pièce pour dire, mais il faut bouger, quoi. Il faut rouler, il faut tourner, il faut sauter. Et il ne s'agit pas de performance. Il y a un moment où j'arrête la pièce, où je dis, là, je vous parle du saut périlleux, mais en fait, je vous parle du mouvement en général. Et clairement, j'ai blagué en disant, à l'université, vous ne bougez pas assez. En fait, c'est clairement, le monde ne bouge pas assez. Quoi, enfin, voilà, quoi. Je trouve que le corps...
Mais du coup, vous auriez des propositions ? Il faudrait qu'on bouge un peu plus pendant les cours, qu'on soit un peu plus debout, qu'on fasse cours dehors. Non, mais c'est vrai, c'est une question.
Alors, il y a des tonnes de pratiques physiques, et ça, je pense, c'est à chacun, à chacune, de trouver ce qui... vers où va l'élan, quoi. Ça, je pourrais pas dire des propositions, mais en tout cas, je me dis, oui, rester plus d'une heure et demie ainsi, ça vaut le coup de se dégourdir après, quand même. S'il y a un truc concret. Non, j'en sais rien. Je me dis, c'est bien d'avoir ça en tête, que le corps a ses raisons et qu'on est quand même avant tout des corps, quoi. Et qu'en plus de ça, ce que j'essaie de raconter dans la pièce, c'est que les corps, ils nous invitent à penser, quoi. Se mettre en mouvement, c'est mettre en mouvement la pensée. Que ça... Voilà, que le mouvement a ses raisons, quoi. Et que c'est pas toujours quelque chose... Cette pièce-là, elle est écrite aussi en mouvement. Par exemple, Alice comprend pas encore aujourd'hui le moment où je danse par terre. Où je danse, elle me dit mais pourquoi ? Je dis mais parce que je parle une heure et quart de ça. S'il n'y a pas un moment où j'explore et que je donne à voir ça, ben c'est quand même problématique, quoi. Voilà. Merci.
Tu fais aussi la peau à Descartes un peu dans le,
ouais.
Hein, quand même. Hein. Cette question effectivement de, enfin, peut-être pour rebondir sur cette question de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est aussi de se dire que il faut penser le corps dans tous les enfin à tout moment en fait, c'est pas juste tiens faudrait des ateliers, plus d'ateliers de corps avant les cours, etc. Ou de cette question, c'est de se dire que c'est pas assez. Enfin, tu expliques bien dans ta conférence cette question d'un supposé de séparation en tout cas de l'esprit et du corps et de comment le repenser, ce que tu expliquais, hein, cette question du mouvement et du mouvement de la pensée. Mais effectivement, et tu prends les, voilà, tu tapes un peu sur Descartes sur cette question là
Ouais, le pauvre, c'est un peu mon bisu. En plus, je le connais pas tant que ça, en vrai. En plus, il vient d'ici, il paraît. J'ai appris après avoir joué. Il a étudié ici. Mais oui, c'est plutôt Descartes ou pas Descartes, mais plutôt l'idée, oui, de séparation qui je trouve beaucoup plus complexe que ça, quoi. Et que ça, cette séparation-là, je la trouve problématique. Aussi dans la médecine, dans les soins. On s'étonne toujours de tomber malade quand on va pas bien, que le corps... enfin voilà, on s'étonne toujours de ça, et je me dis, bon, quand même, on pourrait comprendre, acter cette complexité-là, en tout cas. Non pas qu'on n'ait pas d'esprit, qu'on n'ait pas de corps, mais... voilà, en tout cas... je joue avec ça, oui, avec Descartes.
Il y a une autre chose, alors, bon... Il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole ou pas ? J'ai pas vu. Oui, pardon.
Oui, moi je n'ai pas eu la chance de voir le spectacle mercredi il y a 15 jours, mais je vous avais vu, il me semble, à Poitiers, à Parthenay, au Festival A peut-être, avec Sydney. Et effectivement, c'est l'un des seuls spectacles où d'habitude j'ai mes questionnements à moi et la beauté de ce que je vois. Et là, à la fois, j'étais waouh, et en même temps, il y avait vos questions, votre dialogue, et donc le fait de réfléchir et d'avoir la sensation dans le corps et dans le cerveau, enfin, c'est beaucoup et c'est grisant et enfin, je vois pas ça tout le temps. Voilà. Et j'étais avec ma fille, donc voilà, de 5 ans, comme vous disiez tout à l'heure. Et quand je lui ai dit, j'ai loupé le spectacle, mais il me semble qu'on l'avait vu ensemble, elle m'a dit, ah oui, le monsieur qui s'envoyait en l'air et qui parlait. Voilà, en même temps.
Ok. Ben, merci. Et ouais, l'idée, c'est que dans le spectacle que vous avez vu, plutôt que de parler comme ça, d'expliquer, raconter, on va plutôt donner à voir, en fait, c'est une espèce de grosse mise en scène d'un entraînement de cirque où on pose un tube de 2 mètres au milieu de la piste, il n'y a que ça, et le spectacle commence comme ça, je lui dis « donc c'est ça ton truc ?» Il me dit « bah ouais, c'est ça, et tu vas monter dessus. » Et du coup, je dis « ah ouais, ça a l'air cool. » Et ça va durer 1h15 comme ça. Et après, je vais monter de plus en plus haut, puis je vais dire, mais attends, ça fait flipper ton truc, il se passe quoi si je tombe ? Lui va me dire, t'inquiète, machin, et on avance comme ça, de question en question, et on donne à voir beaucoup les rapports en fait, qui sont en jeu dans la pratique du duo, qui est quelque chose que je ne peux pas aborder là, pour le coup, dans la pièce Faire un tour, mais qui est très fort, qui est la pratique du duo, qui rappelle beaucoup les rapports qu'on a en fait au quotidien, soit dans le couple, soit dans les je sais pas quoi, des questions de confiance, des questions de différence de point de vue, c'est-à-dire que lui il porte et moi je voltige, donc on n'a pas le même point de vue parce qu'on n'a pas le même vécu, quoi. Donc on discute tout le temps. Donc c'est ça qu'on donne à voir, quoi, pendant tout le spectacle.
Il y avait un autre point visiblement qui avait aussi marqué les étudiants et les étudiantes, c'était cette question de quand tu abordes la question du raté, enfin de cette question de s'autoriser à rater, que aussi l'apprentissage et la transmission se fait par ces impossibilités parfois, par accepter d'échouer en fait, et par la répétition de l'échec, mais différemment. Est-ce que ça, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de propre au cirque aussi sous cette question-là? Et comment toi, tu l'abordes dans la transmission? Peut-être que toi, tu fais aussi, tu donnes aussi des ateliers où tu...
Je pense que cette question de l'échec, tout le monde la vit. Seulement nous, dans le cirque, c'est beaucoup plus visible. Parce que quand on rate un mouvement, on se pète un truc ou je sais pas quoi. Il y a du sang, quoi. C'est spectaculaire. Mais je pense que l'échec, il est, pour le coup, c'est un vécu qui est partagé. C'est ce genre de... C'est là où on se dit, tiens, c'est intéressant d'écrire à partir de ça. C'est que il nous semble que c'est un vécu qu'on peut partager avec tout le monde. Ça peut faire référence à tout le monde en entendant ça. Donc oui, c'est une question hyper importante, la question de l'échec, du recommencement. Je pense que tout le monde a ce vécu-là. Et qu'on peut se regarder et se dire, c'est OK si on rate les trucs. Voilà, dans la pédagogie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est pareil, assez classique, mais je me dis ça vaut le coup de le répéter quand même. De se dire qu'on est OK avec le fait de rater, et que c'est pas grave, et que ça va nous amener ailleurs, et tout ça. Dans une autre pièce qu'on a fait avec Ciné, qui s'appelle Chute, on parlait beaucoup, beaucoup de ça. C'était un peu le sujet de la pièce. Comment on utilise l'énergie que nous donne la chute, donc sous-entendu le raté, pour en fait prendre l'élan, on va dire, comme accumuler l'énergie de la chute, la gravité, pour que ça crée du mouvement. C'était un peu le sous-titre de la pièce, quoi. Comment on utilise l'énergie que nous donne la gravité pour créer du mouvement. Donc comment on utilise nos échecs pour créer autre chose, quoi. Voilà. Et cette pièce, elle parlait beaucoup aussi aux gens, parce que je pense qu'on partage cette expérience-là, quoi, de rater des trucs.
Tu évoques aussi dans la pièce la question, enfin, que tu as abordée tout à l'heure, la question politique aussi, hein, de la place du corps et de qu'est-ce qu'on en fait, comment il est instrumentalisé aussi, et cette question de la surpuissance de ce que peut être le corps d'un circassien qui réussit, pour le coup, qui n'échoue pas. Et je me demandais comment toi, dans les transmissions, ou dans comment on t'a transmis aussi, on parle de cette question à la personne qui apprend. et qui désire, j'imagine, réussir aussi, enfin être cette personne performante aussi. Et à quel endroit on situe, enfin toi tu situes cette question de l'intention en fait du saut ou de l'exploit du saut périlleux, et comment ça se transmet, et comment tu transmets toi ton état d'esprit par rapport à cette question-là.
Ouais, très bonne question. C'est une question que je me pose beaucoup, quoi, dans la transmission. C'est que on arrive face à des gens qu'on connaît pas et on leur dit. Donc on n'arrive pas tous et toutes au même du même endroit et on va devoir essayer de faire la même chose. Donc à la base c'est compliqué. Et du coup pour ça, j'ai l'impression qu'il y a par exemple des figures, il y a des mouvements clés dont je sais moi en tant que pédagogue que tout le monde va pouvoir le faire quasiment. Et qui vont créer une espèce de désir, quoi, de volonté, qui vont permettre la suite. Si je commence par des figures qui mettent les personnes en difficulté, il y a un sentiment d'échec, d'incapacité, ah mais ça je peux pas, même des choses très simples des fois. Enfin, oui, très simples, non, même des mouvements qui paraissent simples en tout cas, on va dire. Et donc il y a un peu des mouvements clés, je trouve, qui permettent de faire des choses. Donc ça c'est toujours complexe. Après, il faut être fin, il faut observer, il faut encourager. Moi, je suis vachement en éducation positive tout le temps. C'est bien. Des fois, ça fait boum, bam, bim. Mais c'est pas grave, c'est bien. Voilà, c'est comme ça. Puis je répète, là, on se voit 2 fois 2 heures à faire des mouvements. Le mouvement, c'est de l'expérience, apprendre à faire un geste. Ça prend des heures et des heures. Donc ça, c'est à tout le monde de se rassurer et se dire... oui, en fait, c'est normal, on n'apprend pas à écrire en 2 fois 2 heures, quoi. Donc ça je le répète beaucoup en fait, c'est un peu comme ça que je fais, puis on avance, et puis des fois oui il y en a qui s'assoient un peu. Donc ce qu'il faut c'est plutôt créer les conditions pour que ce soit ok pour les personnes qui arrêtent, plutôt que d'essayer absolument que tout le monde participe. Et après ça va dépendre qui... J'ai donné un atelier il y a 2 semaines, je savais pas du tout qui allait venir, donc j'ai fait un atelier un peu basique. Après, quand je sais qui vient et quels sont un peu les niveaux, on va dire, bah là, je peux m'adapter, quoi. Ou sur même un deuxième atelier, on aurait fait encore 2 heures. J'aurais capté un peu là où je suis, donc j'aurais pu adapter ça. Mais du coup, c'est une question de, un peu, faut regarder, quoi, qui est là.
Ce qui se disait ce matin aussi, cette question de connaître avec qui, voilà. Avec
ouais,
qui
faut on avoir un travailler. Peu.
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont suivi l'atelier avec Mathieu? 31, ouais. Est-ce qu'il y en a qui voudraient témoigner juste de ce qui s'est fait pendant l'atelier?
C'était un petit peu particulier parce que cet atelier était divisé en 2 parties. La partie du matin, on avait été avec une autre personne qui nous a échauffé et fait aussi pareil des mouvements, ce genre de choses. Donc on a eu Mathieu Guéry uniquement l'après-midi. Et c'est vrai que les mouvements étaient assez, enfin, les propositions d'échauffement, ce genre de choses étaient assez accessibles. Et en fait, ce qui m'a vraiment étonnée, c'est que les personnes qui étaient, on était, je sais pas combien, on était 8, 10 peut-être, je sais pas. Et en fait, on connaissait pas nos prénoms, on connaissait vraiment pas les personnes qui étaient avec nous. Et pourtant, on a fait des choses où on devait se faire confiance. Voilà, on avait des entraînements où on devait tomber ou être vraiment avec du contact, et on s'est vraiment c'était assez impressionnant, puisque parfois le premier contact qu'on avait avec des personnes qu'on ne connaissait pas, c'était le fait de les porter, ou vraiment de on a fait aussi un jeu de chat et de la souris avec les yeux bandés, ce genre de choses là donc c'était vraiment un appel au sens qu'on n'a pas forcément l'habitude. Louis, ce genre de choses-là. Et ça ne nous a pas vraiment freinés pour faire connaissance, finalement, avec les gens qui étaient sur place. Voilà, donc c'était vraiment une chouette expérience. Je pense qu'à peu près tout le monde qui était présent était satisfait de l'expérience, même s'il y en avait qui avaient des difficultés physiques qui pouvaient empêcher certains mouvements. Voilà. Mais ouais, non, c'était vraiment assez incroyable, je trouve.
On a un deuxième témoignage.
Bonjour. En effet, il était une super expérience. Au début, j'ai regretté un peu parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on va faire et tout. Mais après, J'ai appris pas mal de choses. On a appris comment jeter, on a appris comment faire en cas de jeter. Et surtout moi, car en fait, je travaille dans un EHPAD avec les personnes âgées et tout. Il y a pas mal de personnes âgées qui shootent et tout. Donc, j'ai appris comment la manière de faire en cas de shoot et tout. Donc, c'était vraiment magnifique. Mais juste, j'ai une question. Le 31, quand on était là, vous avez dit que rater un supérieur, c'est la seule manière d'apprendre. J'ai une question, mais je ne sais pas si c'est une question bête ou pas. Est-ce que ça veut déjà arriver de casser quelque chose ou...
Et non. Je suis hyper décevant dans ce genre de questions parce que je me suis très peu blessé dans ma carrière d'acrobate. Alors par contre, j'ai beaucoup de contractures musculaires, des dos bloqués, ça m'arrive quand même pas mal. Mais plutôt des... quand j'ai le corps un peu déséquilibré, là j'ai des tensions quoi, partout. Mais je ne me suis jamais rien cassé, ni en termes de ligaments, ni d'os. Ni... Enfin, j'ai rien à raconter d'incroyable. Par contre, je me suis pris des trucs sur la tronche, je suis tombé plein de fois, ça c'est sûr. Donc oui, je suis tombé, c'est obligatoire ça. Pour le coup, je pense que il n'y a pas d'apprentissage sans chute, quoi. Ça c'est sûr, et dans l'acrobatie c'est très vrai, quoi. C'est parce qu'on tombe qu'on se dit ah ben non, ben, pas comme ci, pas comme ça, ou qu'on se dit oula, attends, ça je vais le faire un peu mieux, parce qu'il y a des paliers quand même dans l'apprentissage, surtout dans la voltige. On apprend progressivement et des fois hop, on a envie de sauter un palier, puis tomber sur la tête, ça permet de se dire qu'on a raté un palier. Et c'est assez sérieux, quoi. C'est parce que sinon, on ne se rend pas forcément compte d'où est-ce qu'on en est dans notre apprentissage. Donc voilà, mais sinon, je ne me suis pas blessé.
Oui, exactement, vous avez raison. Et moi, j'avais un ami qui l'a déjà essayé, il est cassé ses bras, donc voilà.
Bah, il est allé trop vite.
Mais de ce que j'entends aussi de ce qui a été dit, c'est que finalement, un atelier que tu mènerais, ce serait l'apprentissage peut-être de quelques trucs de la voltige, mais surtout de l'apprentissage de la chute et de ce qui nous et de cette relation de ce que la personne disait, de qu'est-ce qu'on met en place pour diminuer le risque et pour rétablir la confiance. C'est-à-dire, j'imagine que tu fais effectivement des ateliers avec des gens qui, des fois, n'ont pas du tout de pratique de ça, n'ont peut-être pas non plus la musculature, enfin des corps qui seraient très exercés à porter, à sauter, à avoir la tonicité. Mais en même temps, cette question de apprendre à recevoir quelqu'un qui chute, à soi-même chuter et ne pas se faire mal, ça fait partie aussi, j'imagine, de ce qu'ils apprennent.
Et ce qui est le plus difficile quand je donne les ateliers, c'est que j'aime beaucoup les travaux de duo, parce que je le trouve très, très riche. Et je trouve ça... Je n'ai pas encore exactement la clé pour... parce que je trouve, à la limite, comme des gens qui n'auraient pas l'habitude et qui seraient amenés à faire des mouvements qu'ils ne connaissent pas, je me dis, je m'en sors tout le temps, quelque part. Enfin, je m'en sors, on s'en sort ensemble tout le temps, dans le sens où on apprend, on découvre et tout ça. Mais dans le travail de duo, par exemple, moi-même, je ne serais pas à l'aise d'arriver dans un atelier avec des gens que je ne connais pas et me retrouver à me rouler, à me coller, à machin. Et des fois, je sais que c'est ça que je fais. Je dis, mettez-vous par deux, on va se rouler dessus. Et je ne sais pas comment le faire autrement que comme forcer un peu le truc, quoi. En disant, oui, c'est vrai que c'est un peu spécial. Après, je dis rouler, je grossis le trait. Hein. En vrai, vous avez bien vu ce qu'on fait, on se rattrape... Bon. C'était pas non plus, exagéré dans le sens du contact trop fort, mais je suis toujours un peu, c'est toujours une problématique. Comment est-ce qu'on crée un rapport assez vite qui permette le travail de duo, parce que je sens que c'est ça peut être gênant, quoi, clairement. Alors que je trouve que j'ai envie d'aller très vite dans le travail de duo parce que je le trouve vraiment génial. Donc voilà, ça c'est un peu une des problématiques, plus que les différences de niveau au moment où on arrive. Où ça, je me dis, chacun engage aussi, surtout avec des adultes comme vous, chacun engage ce qu'il a envie d'y mettre aussi, quoi. Là-dessus, je vous fais confiance.
Sur le site de la compagnie, on trouve aussi, pour revenir à cette question de création et de transmission, il est écrit faire dialoguer art et pédagogie en créant tantôt des spectacles conférences, donc là t'en as bien parlé, tantôt des ateliers spectaculaires. Et du coup je voulais savoir ce que t'entendais par ce terme là.
C'est un peu une formule de site internet. Mais
c'est le communicant qui a écrit ça.
Là, c'est moi. oui, c'était histoire de. C'était quand même. Non, c'est quand même pour dire qu'on crée des spectacles qui ont une vocation pédagogique, mais qu'on considère aussi la posture de pédagogue comme une posture créative dans laquelle on peut faire appel, c'est-à-dire les outils qu'on a, nous, en tant qu'artiste. C'est des outils que j'utilise, moi, quand je donne des ateliers. C'est-à-dire que, comme on a raconté un petit peu avant, je l'invente, l'atelier, quoi. Ma posture de pédagogue, elle fait appel aussi à une dimension créative. Donc c'est un peu pour nommer cet aller-retour-là que les blagues que j'écris pour faire mes spectacles, ben, je les fais aussi dans les ateliers. Enfin, je sais pas, il y a un truc où, en tout cas, je reste un peu le même au milieu de tout ça. Et que des fois, il s'agit juste du contexte qui change. Mais oui, c'est un peu une formule, quoi.
Ce matin, on évoquait beaucoup la question des créations avec des personnes non professionnelles. Et je voulais savoir si vous aviez déjà été confronté dans la compagnie à ça, enfin, à avoir des temps longs d'ateliers ou avec quelque chose qui ressemble à une forme esthétique à la fin. Est-ce que ça se projetait aussi ? Est-ce que c'est des envies que vous avez sur cette question, notre façon de transmettre par la création ?
Non. Non, on ne fait pas. Et c'est très volontaire, quoi. On aime la pratique, l'expérience, partager la pratique, l'expérience de l'acrobatie en tant que telle. Par contre, emmener des gens dans une écriture, avec des professionnels, on ne le fait pas, quoi. Parce qu'on écrit aussi beaucoup avec la première personne, avec le jeu, et que du coup, clairement, on ne saurait pas trop comment faire. Après, voilà, emmener, aider, partager notre expérience pour que ça puisse ensuite permettre de créer des spectacles, volontiers, mais par contre, non, on ne le fait pas trop. Et je crois que ça nous, pour le moment, ça ne nous intéresse pas vraiment. Enfin, je pense qu'on a peur de ça en vrai. Plutôt qu'on n'est pas intéressé, je pense que moi j'ai peur d'emmener les gens à écrire et d'accompagner ce qui produirait. Je saurais pas faire ça, quoi. Donc voilà.
Et peut-être pour terminer, à la fin du spectacle, dans le spectacle, tu expliques que la vie d'un acrobate, la vie professionnelle de quelqu'un qui fait beaucoup de sauts, qui engage son corps comme ça, ne peut pas non plus durer éternellement. Évidemment, ça dépend comment on pratique, évidemment, les arts du cirque, et qu'il y a des gens qui peuvent le pratiquer assez tard. Mais je voulais savoir si cette question de pratiquer l'écriture aussi, désormais, est-ce que dans un avenir, disons pas forcément super proche, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se profile pour toi, d'un chemin vers l'écriture et peut-être moins vers la question de la prise de risque, en tout cas dans le corps, même si la question du mouvement se pose, j'imagine, toujours.
Bah oui, oui. Oui, je pense que mon conscient le refuse, mais je pense que mon subconscient fait exactement ce chemin-là. C'est écrire, parler du cirque, c'est clairement oui, j'imagine. En tout cas, ça ressemble à ça, quoi. Je sens que je perds en explosivité, j'ai 35 ans. Oui, c'est sûr que je peux observer que je ne fais plus les mêmes choses que quand j'avais 20 ans et que ça va aller dans ce sens-là. Après, ça ne m'inquiète pas trop. Je sens qu'il y a un mouvement naturel et que je fais confiance à ça aussi. Je change aussi les disciplines avec l'âge qui avance. Là, je commence à faire du funambule, par exemple. En ce moment, c'est ça que je fais. Comme j'ai envie d'écrire quelque chose avec le funambule. Donc, le funambule, c'est un fil en hauteur, qui est un truc que, franchement, il y a 10 ans, on m'aurait dit que je ferais ça. J'aurais dit jamais de la vie. Et qui, là, en ce moment, m'occupe beaucoup. Et que c'est une pratique qui est clairement pas dynamique. Et qui va avec mon âge aussi. Je sens bien que ça va ensemble, quoi. Même si je le conscientise pas comme ça, je me dis pas quelle pratique je vais pouvoir faire. En fait, naturellement, je me dis tiens, mais le funambule, en fait, c'est génial. Et je commence comme ça à rentrer dans un truc et du coup, c'est plutôt comme ça que je peux observer, en tout cas, que les choses elles se décalent, mais qu'il y a pas de décision. J'ai passé le diplôme d'état de professeur de cirque il y a 2 ans. Donc clairement, l'intention elle est aussi d'aller vers plus de transmission. Voilà, je laisse un peu les choses faire quand même. mais je vois bien qu'elle se déplace. Donc, et que ça je trouve les tournées, par exemple, elles me fatiguent beaucoup en ce moment. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait des questions encore pour Mathieu avant qu'on fasse la pause ?
Alors, ce n'est pas vraiment une question, c'est un témoignage, mais du coup, je me demandais ce que ça pouvait donner dans le cirque. Parce qu'il y a tout un état d'esprit dans la danse, on était dans la danse ce matin, de l'âge vieillissant, du corps dansant vieillissant. Et il y a une chorégraphe, mais aussi chercheuse, qui s'appelle Cécile Proust, qui a fait un documentaire qui s'appelle « Qu'est-ce que l'âge fait à la danse ?»
qui sera là pendant Accord aussi.
Voilà, ben, je vous engage à le voir. Et je me disais, ouais, c'est pas neuf dans la danse, mais dans la danse occidentale, hein, parce que dans d'autres cultures, comme le buton, on danse jusqu'à plus d'âge. Si le cirque, peut-être un jour, se poserait cette question, où irait dans ces chemins-là de continuer dans le spectaculaire sans forcément... C'est peut-être plus compliqué par rapport à l'idée.
Bah moi, je sais que le plus beau spectacle que je ferai, c'est quand je serai un vieil acrobate, c'est certain. Oui, je pense que c'est un peu compliqué, c'est un peu un sujet tabou quand même dans le cirque. Parce que je trouve qu'on se voit vieillir et il y a quand même une forme de tristesse. Quoi, et je vois pas mal autour de moi, ça y est, quoi, on commence à être quasi les derniers résistants de ma génération. Quoi. Et quand même, c'est très visible parce que le saut périlleux, un jour tu le fais, le lendemain tu le fais plus. Il y a un truc comme ça qui est. C'est pas on le fait un peu moins ou on le fait un peu moins bien. Je sais pas, c'est très. Et ça met face à. Je pense. On en parle beaucoup du vieillissement, en tout cas entre acrobates. Mais parce que je pense, encore une fois, c'est que c'est très visible. Quoi. C'est pas quelque chose qui s'installe doucement, c'est quelque chose qui vient péter les ligaments croisés. Et que du coup on en parle tout le temps et moi des fois je me dis j'abuse quoi. J'ai 33 ans, j'écris cette pièce où je commence en disant je suis vieux, c'est abusé quoi. Mais en fait je me dis c'est quand même quelque chose qui occupe fort quoi. Donc je sais pas ce que ça donnera, on verra, on se retrouve dans 20 ans quoi. Je sais pas exactement ce que ça donnera. Mais j'adorerais, moi j'adorais les pièces que j'ai fait intergénérationnelles quand j'étais interprète. C'est quelque chose qui me manque beaucoup dans le cirque, parce que dans le cirque on n'est que entre jeunes quoi. Il y a un truc comme ça et ça me manque beaucoup dans le théâtre. Sur le plateau il y a des personnes de 20 à 65 ans et je trouvais que c'était riche. Et c'est d'ailleurs quelque chose de terrible je trouve pour le cirque. Que je me dis souvent, c'est que je me dis le cirque, on commence à être comme d'avoir une maturité au moment où notre corps il est un peu fatigué, quoi. Et que je me dis, est-ce que c'est pour ça qu'on n'a jamais réussi à œuvrer autant que le théâtre ou la littérature quelque part ? Est-ce que y a pas un moment de croisement entre l'expérience et le vieillissement du corps qui fait que ce sera un art éternellement jeune, quoi, bon voilà, ça c'est mes pensées par rapport à l'âge quoi.
Eh ben merci beaucoup sur ces questions.
Alors oui, mais je me disais que ça pouvait être intéressant si quelqu'un, quelqu'une voulait prendre le micro de l'école du cirque de Châtellerault, parce que voilà, est-ce que vous êtes reconnu dans ce portrait d'hyperactif, d'hyperactive est-ce que c'est voilà, est-ce que parmi vous il y a quelqu'un qui serait prêt. Super.
Je me disais bien qu'il y avait des acrobates.
Bonjour. Voilà, bonjour. Pour commencer. Donc, c'est très intéressant. Je n'ai pas très hâte de vieillir, mais en avant. Et alors moi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que là, je vais parler à titre personnel et pas de ma promo, parce que je suis acrobate. Et j'essaye vraiment dans tout mon univers artistique que je suis en train de développer de mêler la poésie des mots à la poésie du corps. Et donc, c'est quelque chose, comme tu disais, qui était tabou dans le cirque et qui commence petit à petit quand même à arriver. Et on le voit autour de nous que la parole commence à arriver petit à petit, mais pour moi, elle est encore séparée du corps. Même si on commence à vouloir transmettre des idées et que pour aller plus loin dans ce développement, on passe par la parole, on le coupe de notre rapport au corps. Et comme par exemple, quand on dit il faut entretenir notre corps, parce que c'est hyper important, c'est un véritable outil, même dans la vie de tous les jours, là je parle pas du tout en tant qu'artiste de cirque, bah on le dit pas, mais en fait c'est pas juste le corps qu'il faut entretenir, c'est nous, et ça va de pair avec ces mots et avec ce qu'on est en fait. Et c'est pour ça que voilà, si moi j'ai trouvé ça très très intéressant et que toute cette avancée elle se fasse, je trouve ça hyper fort, et du coup ça m'a beaucoup donné envie de voir la représentation, parce que malheureusement on n'a pas pu la voir, c'est un peu la déception, parce que du coup on manque un peu une partie du sujet. Mais donc voilà, à peu près tout ce que ça a fait résonner en moi, et je sais que pour à peu près les autres, c'est la même chose.
Mais ouais, je pense que c'est important ce que tu dis quand même, de se dire, de déplacer, qu'est-ce que ce serait l'écriture du cirque ou parler au cirque. Pour moi, ça se fait à condition que le point de départ, ce soit le récit de cette expérience-là. Et que c'est vrai que j'ai vu beaucoup dans le cirque parler, pour caricaturer évidemment, des acrobates qui vont nous parler de crise écologique et qui vont aller faire du trapèze. Et du coup, je fais pas le lien. Et du coup, je me dis comment, en fait, il faut. J'ai l'impression que pour moi, une des conditions à l'écriture, elle est de se dire qu'est-ce qui va se passer pendant la pratique de l'écriture d'abord, et ensuite le sujet, on va pouvoir comme. Mais c'est là où je disais que la formation à Chalon, elle va commencer par qu'est-ce qu'un sujet. C'est que le point. Je pense que c'est important ce que tu dis quand même. Que ça, c'est dans ce sens-là, quoi. On part du travail du corps et du mouvement pour aller vers l'écriture, plutôt que l'inverse.
Et juste pour précision, ça c'est la casquette libraire qui parle. Il y a une artiste qui s'appelle Marion Collet, voilà, qui est circassienne et qui écrit des poèmes et qui utilise la poésie aussi dans son travail et qui publie des poèmes.
Oh oui. Et avec qui j'ai monté ma première compagnie d'ailleurs, Marion Collet. Ouais, il y a pas mal de. Il y a une belle bibliographie. Hein. Mais c'est vrai que Marion, c'est super parce que c'est des poèmes. Elle est fil de feriste. Et du coup, c'est un des rares objets artistiques, littéraires, autour de l'expérience du fil, qui n'est pas une analyse. Ou...
C'est vraiment de la poésie, très chouette poésie.
Ah ouais, c'est super. Et elle sort un nouveau recueil, d'ailleurs, bientôt.
Oui. Marion Collet, C-O-2-L-E.
Et je travaille sur le livre du spectacle, donc peut-être ça vous aurez l'occasion de la voir plutôt que voir la pièce. Mais c'est pas gagné.
Il serait publié par la compagnie ou qui serait publié chez un éditeur
Chez éditeur. Mais c'est pas gagné. Mais on travaille sur la maquette en ce moment.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Stéphanie Pichon. J'ai encore des étudiantes et étudiants du parcours livre et médiation qui vont animer des tables rondes et des entretiens lors du festival Bruit de langue qui va avoir lieu la semaine du 4 mars. Et je pense que ton exemple est vraiment toujours super enthousiasmant. Et vraiment, merci beaucoup à Mathieu Gary de venir ainsi partager son expérience, ses doutes, ses envies. C'est vraiment super pour nous. Merci beaucoup.